On est actuellement en studio avec Franck, qui est notre spécialiste bien de chez nous, qui va nous parler aujourd'hui d'un écrivain existentialiste suédois du nom de Stieg Dagerman.
Ouais.
Donc Stieg, c'est un Suédois qui est né en quelle année environ pour établir, si on veut, le contexte historique?
OK. Ben, pour être précis, dans le fond, Stieg Dagerman est né en 1923. Et puis, pour vous faire comme une rapide biographie, dans le fond, il a été délaissé par ses parents, puis il grandit dans une campagne chrétienne. Il déménage avec son père à Stockholm à l'âge de 9 ans, où, dans le fond, il est essentiellement un paria. Il fit pas pantoute dans la grande ville. Il va rejoindre à l'âge de 20 ans le journal Arbetaren, qui est, dans le fond, le journal anarcho-syndicaliste suédois. Et puis, il fréquente les représentants de la jeune génération littéraire des années 40, qui sont rassemblés autour de la revue 40 Tal. Il va épouser une immigrée allemande, Anne-Marie Götze, qui est la fille d'un anarchiste. Il va l'épouser vraiment très jeune. Là, à la limite, on se demande même si ce n'est pas un mariage humanitaire. Là, dans le fond, si ce n'était pas pour que Anne-Marie puisse avoir une double citoyenneté, comme ça, elle ne serait pas extradée en Allemagne. Aussi, à 22 ans, il va sortir son premier roman qui s'appelle Le Serpent. Et déjà, Dagerman va être, le roman de Dagerman va être acclamé autant par la critique et le public. Il va écrire ensuite à 25 ans, dans le fond, il va publier L'Enfant brûlé, qui est considéré comme sa grande œuvre. Entre-temps, il avait déjà publié un autre roman, L'île des condamnés, qui est comme un autre roman plus symboliste, là, comme l'avait été Le Serpent, tandis que L'Enfant brûlé, lui, est plus près du réalisme, là. Il avait aussi fait beaucoup d'autres travaux. Là, quand même, Dagerman a beaucoup, beaucoup publié pendant une période de 4-5 ans. Là. Il avait fait un travail, entre autres, qui s'appelait L'automne allemand, où il avait voyagé en Allemagne en tant que journaliste et il avait publié plusieurs chroniques sur l'Allemagne d'après la Deuxième Guerre mondiale, comment est-ce que l'Allemagne avait été détruite et tout ça. Et puis, il avait écrit aussi tout au long de sa carrière, il va continuer à écrire des billets pour le journal Arbetaren. Là. Souvent, c'est des petits poèmes à caractère satirique et ironique.
Oui, il faut dire d'ailleurs qu'à cette époque-là, c'était d'usage pour les journaux anarchistes d'écrire l'actualité de la semaine en poème. On l'a vu en Espagne en 1936, puis ça devait être la même chose en Suède à cette époque-là.
Oui, puis il a quand même l'air d'avoir une grosse influence là, sur de l'anarcho-syndicalisme espagnol sur, dans le fond, d'être un peu le phare là, pour l'anarcho-syndicalisme suédois. Ça va être un thème sur lequel on va revenir un peu plus tard.
Puis je crois également que c'est à cause de son père qui était également militant anarchiste qui est devenu anarchiste.
Oui, le père de Dagerman était militant anarchiste. Fait que Dagerman a été exposé, je pense, déjà à partir de l'âge de 14 ans. Là, il faisait partie des milieux militants. Là. Donc, né en 23, il est rendu comme considéré comme un génie à l'âge de 25 ans. Après 1949, il arrête pratiquement d'écrire. On a établi différentes hypothèses sur pourquoi Dagerman avait ralenti dans ses activités littéraires. Est-ce que c'était soit parce que, dans le fond, sa créativité commençait à manquer ou sinon, peut-être aussi, est-ce que c'est le poids de son génie et de sa réputation qui commence tranquillement à l'écraser. Là.
La barre était trop haute.
Ouais, la barre était trop haute. La barre avait été mise vraiment haute quand même. Là. Le gars avait été reconnu comme génie avant d'avoir 25 ans. Là. Fait que, après ça, dans le fond, d'avoir à écrire, chaque ligne qu'il écrivait pouvait, dans le fond, juste nuire à sa reconnaissance. Là. Finalement, vers la fin de sa vie, il va épouser en seconde noces Anita Björk, qui est une actrice. Et puis, Anita Björk et Stieg Dagerman sont tombés amoureux du moment qu'ils se sont vus. Ils ont divorcé chacun de leur côté. Après plusieurs tentatives, finalement, Dagerman se suicide le 4 novembre 1954. Pourtant, il n'y avait pas... Dans le fond, le mariage avec Anita Björk n'avait pas... C'était quand même une femme qui aimait éperdument. Et puis, ils se sont quand même rencontrés sur le tard là, dans la vie de Dagerman. Dagerman est quand même mort à 31 ans. Là, fait que parler de s'être rencontré sur le tard, on s'entend que c'est comme, dans le fond, on parle plutôt de la dernière année de sa vie. Mais il paraît aussi que Dagerman était quand même propice à avoir des crises de jalousie. Là.
OK.
Mais bon, fait que...
Ça, c'est pour ce qui est de sa biographie.
Ça, c'est pour ce qui est de la biographie. Dagerman est considéré comme un auteur existentialiste, dans le fond. en même temps, il n'est pas à proprement dit un philosophe. Là. C'est pas un Kierkegaard, c'est pas un Sartre, c'est pas un Camus, mais les thèmes qu'il va développer dans son écriture, surtout son écriture, dans le fond, dramaturgique et romanesque, vont ramener là, à des thèmes existentialistes par excellence.
Ben, à ce niveau-là, on peut quand même le rapprocher un peu de Camus, qui lui également utilisait quand même beaucoup ses œuvres littéraires pour propulser un peu la réflexion.
Oui, définitivement. On peut aussi le rapprocher de Sartre, mais le rapprochement avec Camus est définitivement quelque chose qui est immanquable. Là. On parle quand même de... Bon, pour Camus, on va parler d'un auteur relativement jeune qui est... comparé à Dagerman, qui lui, clairement, était jeune quand il est mort. Là. Mais c'est ça, c'est deux jeunes auteurs, dans le fond, philosophes existentialistes de la révolte, qui vont utiliser, dans le fond, leurs œuvres dramaturgiques puis romanesques pour démontrer leurs idées, dans le fond. Deux auteurs pour qui les thèmes, dans le fond, de l'absurde sont particulièrement importants. La révolte aussi, c'est très important quand même chez Dagerman, là, sans en faire nécessairement un du triptyque principal. C'est quand même, dans le fond, quelque chose qui est lié au raisonnement de l'absurde là, chez Dagerman. Même chose pour Camus, dans le fond, qui va avoir écrit « L'homme révolté » et diverses autres œuvres qui faisaient référence à la révolte. Là. Donc, je sais pas, peut-être moi, j'avais pensé parler à base de quatre livres de Dagerman. Okay. Deux livres, dans le fond, qu'on va considérer plus comme des écrits engagés, et puis deux autres livres qu'on va plutôt prendre dans vraiment comme son œuvre littéraire. Dagerman avait fait quand même une nuance entre les deux. Là. Pour lui, c'était important qu'un artiste engagé soit capable de faire la différence entre sa carrière en tant qu'artiste et sa carrière en tant que militant. C'est ça. Donc, il n'était pas nécessaire à l'artiste, il n'était pas nécessaire à l'auteur non plus.
D'avoir un message à porter sur toutes les...
Effectivement. Là, c'était pas obligé d'être présent dans tout. Là. Il y avait clairement une différence entre je suis un auteur de romans et j'ai le droit d'écrire ce que je veux, et puis quand je décide d'être un être engagé, quand je décide d'être un individu engagé, je suis un individu engagé. Genre, je vais participer à des sondages et puis je vais répondre comme en tant que bon anarchiste. Je vais aussi comme participer à des manifestations, je vais écrire des chroniques, tout ça. Ça, c'est une chose. Le romancier, le dramaturge, c'est autre chose. Donc, le premier texte, dans le fond, que je voudrais aborder, c'est, dans le fond, les premiers textes que Dagerman avait commencé à écrire, là, vraiment, c'était ceux qu'il a écrit toute sa carrière aussi, là. C'est les billets quotidiens, dans le fond, ce qu'on va appeler, ce que Dagerman va nommer les Dag Sedlar, ce qui... traduit veut clairement dire, dans le fond, des billets quotidiens, mais en même temps, on peut aussi quand même y voir une espèce de jeu de mots là, en tant que billet de Dag pour Dagerman. Donc, c'est ça, Dagerman va écrire tout le long de sa carrière pour le journal Arbetaren, même jusqu'à sa mort. Dans le fond, c'est une espèce de drôle d'ironie de remarquer que à la mort de Dagerman, la seule place dans toute la Suède où on sait pas que Dagerman est mort, c'est au journal Arbetaren, parce qu'on publie encore ses textes.
Okay.
Donc, c'est ça. Dagerman va toujours publier des espèces de courts textes qui commentent l'actualité, là, comme on a dit tantôt. Et puis, dans le fond, c'est ça. C'est des textes qui sont très satiriques où, là, c'est clairement l'influence anarchiste est évidente là, chez Dagerman. Il va toujours garder quand même là, cette espèce de caractère anarchiste-là de critiquer l'État et puis d'être un militant, mais à un moment donné... Il y a une espèce de déprime aussi chez Dagerman qui va finir par s'installer. Là, certains vont dire que c'est comme... dans le fond, c'est une déprime qui va arriver aussi dans tout le mouvement anarchiste, puis particulièrement anarcho-syndicaliste, après la défaite de la République espagnole, dans le fond, après l'échec de la Révolution espagnole. Peut-être aussi un peu quand même... parce que la victoire de Franco, c'est en 39 en Espagne. Dagerman naît en 23 quand même, mais il vit jusqu'en, je veux dire, il se suicide en 54. Il y a peut-être aussi une espèce de déprime qui peut naître dans le fond, de l'espèce d'échec du soulèvement est-allemand aussi, là, autour de 52. Là. On peut se demander s'il n'y a pas de ça, puis Dagerman va quand même écrire sur ce soulèvement-là et va commenter sur le fait que, dans le fond, l'état des prolétaires devrait pas... Quand on demande à l'État des prolétaires de rendre des comptes, l'État des prolétaires ne devrait pas rendre des comptes à coups de fusil, dans le fond, sur le peuple. Fait que ça, c'est, dans le fond, c'est vraiment comme des petits textes, sont très courts. Dans le fond, ils ont été réunis dans un livre où on a gardé les meilleurs, là, parce que quand même, à chaque jour, c'est dur de renouveler son génie. Là. mais ils sont quand même fort amusants et on sent pas encore toute l'espèce de déprime là, qui va animer Daggerman, là, l'espèce de grosse conscience existentialiste lourde avec le sentiment de l'absurde. Là. C'est plus présent peut-être dans Automne allemand, là, où ça, c'est comme j'ai abordé tantôt, dans le fond, Daggerman avait fait un voyage en Allemagne en tant que journaliste. Et puis d'ailleurs, il dédie cette œuvre-là à Anne-Marie Goetze, sa première épouse. Et puis, dans ce livre-là, Daggerman va écrire des chroniques sur l'Allemagne immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale. Il va faire la différence aussi importante qu'il y a entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest.
Oui.
Et puis, pour Daggerman, les thèmes qui sont importants là-dedans, dans le fond, c'est beaucoup à quel point la population allemande est écrasée, comment est-ce que les bombardements l'ont détruite, comment est-ce que tout est détruit, comment est-ce que c'est vraiment une lutte de chaque instant pour être capable de se loger, de se chauffer, de se nourrir, comment est-ce que les trains sont toujours en retard, comment est-ce que la plupart des wagons sont défoncés, fait que le froid rentre en hiver, puis les gens gèlent dans les wagons de train, comment est-ce que c'est vraiment... une espèce d'effort de survie que d'être capable d'aller chercher des patates d'avoir comme peut-être une patate par jour pour l'hiver. Là. Il raconte des anecdotes par rapport à ça aussi. Il va parler beaucoup de la dénazification puis de l'espèce de mensonge de la dénazification d'un côté à travers les procès de dénazification qui sont dans le fond des espèces de procès créés par les alliés. Bon, c'est sûr qu'il y a Nuremberg, mais il y a aussi des plus petits procès qui vont viser comme des
collaborateurs.
Ouais, essentiellement des collaborateurs. Puis Daggerman va faire remarquer comment essentiellement ces procès-là sont des gigantesques mensonges dans le fond, parce que aussitôt que quelqu'un a un peu les moyens de produire pour la société, on va y trouver comme un quelconque moment de gentillesse où on va dire qu'il ne pouvait pas, dans le fond, avoir participé au nazisme, à la diffusion du nazisme, parce que, il y a une fois, il a laissé dormir un juif chez lui, ou une fois, il n'a pas rapporté un juif qui marchait dans la rue, qui aurait dû être envoyé dans des camps de concentration.
Des faux prétextes.
C'est ça, on va définitivement trouver des faux prétextes, tandis qu'on va accuser d'autres personnes qui, elles, n'ont pas vraiment les moyens de se défendre de un peu n'importe quoi. Et puis, en bout de ligne, c'est ça, Daggerman va dire, il y a quand même une différence à faire entre ceux qui ont participé réellement au régime et ceux qui n'ont pas eu le choix de suivre le pas d'une certaine façon. En même temps, il va aussi être très critique par rapport à une espèce d'idée qui perdure en Occident à cette époque-là, que le nazisme existe toujours en Allemagne, parce que dans le fond, les gens vont répondre dans des sondages aux questions des journalistes occidentaux qui vont leur demander est-ce que c'était mieux sous l'Allemagne nazie ou c'est mieux maintenant que vous avez été libéré.
Ouais.
Puis les gens vont leur répondre constamment non, c'était mieux sous l'Allemagne nazie parce que c'est ça, là, Daggerman va noter, dans le fond, on peut pas demander à quelqu'un si on te jette dans l'eau et tu es en train de te noyer, ou on peut pas te demander est-ce que tu étais mieux quand tu étais sur le quai ou quand tu es en train de te noyer, dans le fond. C'est un peu la même chose qu'on était en train de faire aux Allemands à l'époque. Est-ce que vous étiez mieux quand vous aviez droit à 5 tranches de pain par jour, mais que vous n'étiez pas libre, ou maintenant que vous êtes libre, mais vous avez juste 2 tranches de pain par jour, dans le fond, automatiquement, les gens allaient leur répondre que c'était mieux avant.
Donc, le travail journalistique de Daggerman est radicalement différent de la presse qui souhaite, évidemment, chercher à condamner le nazisme, peu importe les moyens.
Ouais, c'est ça. En même temps, par exemple, Daggerman va être aussi hyper critique du fait qu'il existe encore des relents de nazisme dans la société allemande, que c'est pas juste les bombes qui vont enlever une idéologie, qui est probablement quelque chose aussi auquel on pourrait faire attention aujourd'hui, là, justement avec l'islam militant, là, l'idée de se poser de se dire, dans le fond, comme on va enlever une idéologie à travers des bombes, là, on va bombarder une idéologie en dehors de la pensée des gens, là.
Ouais,
c'est quand même une espèce d'aberration.
Dieu sait que les martyrs, ça fait propulser une idéologie, ça.
Définitivement, là, ça a été quand même bien utilisé. biaisé. Fait que c'est ça, Dagerman va être super critique là, par rapport à justement un nazisme qui reste encore sur comment, dans le fond, ça pourrait rebasculer facilement, autant à travers cette oppression-là qui reste, puis par l'espèce de sentiment de la punition aussi. Là. On va vraiment punir les Allemands, puis on va les culpabiliser à tout coup. En même temps aussi, on va leur trouver une espèce de chef sociodémocrate qui va parler pour les conservateurs d'un côté, qui va utiliser un langage prolétaire devant les prolétaires, qui va, dans le fond, essayer de satisfaire un peu tout le monde, essentiellement en utilisant de la grosse démagogie, un peu comme, bon, tous les politiciens le font, en bout de ligne, c'est normal, ça fait partie du jeu de la politique représentative, mais comme Hitler le faisait, puis en même temps, c'est vraiment un chef hyper charismatique qui va être capable, genre, dans le fond, de déplacer les foules, là, puis vraiment, comme, déplacer des gigantesques foules. Fait que c'est un peu par rapport à ça aussi que Dagerman dit qu'il faut faire attention. Là, il y a quand même des risques. Là. Les deux autres livres, dans le fond, que je voudrais aborder, c'est... Là, on va passer maintenant à l'œuvre romanesque de Dagerman. Donc, le premier roman de Dagerman, celui qui a été acclamé par la critique et par le public, celui qui a fait Dagerman, finalement, c'est Le Serpent. Le Serpent, qui est un roman très symboliste, dans le fond, où les thèmes que Dagerman aime exploiter là, dans sa thématique existentialiste, là, comme l'idée de l'angoisse, l'idée de l'absurde, l'idée de l'authenticité et de l'inauthenticité. L'idée de la révolte aussi vont être très présents. C'est peut-être aussi le roman de Dagerman qui touche le plus la problématique de l'État, dans le fond. Là. Après ça, il va vraiment délaisser cette problématique-là dans sa production littéraire.
De quelle manière c'est exploité dans son œuvre?
Premièrement, il y a un des soldats, pour faire un résumé rapide de l'œuvre, c'est dans le fond comme Le Serpent se passe dans un village allemand, pas allemand, désolé, mais suédois, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, il y a une espèce de feeling bizarre, dans le fond, parce qu'on sait que la guerre est à côté, mais en même temps, on n'y participe pas vraiment, mais il y a tout le temps la chance qu'on soit impliqué dedans d'une façon ou d'une autre. Fait qu'il y a des soldats dans une caserne qui sont réunis et puis qui vivent quand même dans une espèce de grosse liberté là, par rapport aux soldats, dans le fond, qui eux sont au front dans d'autres pays. Et essentiellement, là, c'est comme les espèces de tripes d'angoisse qui va se passer entre les gens. L'angoisse qui est représentée à travers un serpent qu'un des soldats va trouver et ramener à la caserne. Puis donc, tout le monde a vraiment la trouille. Là. Tout le monde est vraiment comme effrayé par le serpent, mais on ne sait jamais où est le serpent, où est-ce qu'il se trouve, puis tout ça. Puis en bout de ligne, c'est ça, c'est l'espèce de symbole de l'angoisse que tout le monde porte en dedans de soi. Dans le fond, essentiellement, c'est une angoisse existentielle. Là. C'est à la base comme il existe une contradiction entre l'impuissance à se réaliser dans la société et la conscience que l'individu a de sa propre liberté. Ouais. Là. Il y a vraiment un divorce qui naît de ça, qui va mener au sentiment de l'absurde, dans le fond.
Ouais, surtout si on mélange deux idéologies, ben en fait deux philosophies comme l'anarchisme et l'existentialisme, où pour l'un, toute liberté, si on veut, est propre à l'individu, peu importe la situation, et où l'autre, on va plus parler d'un certain déterminisme puis de circonstances économiques, politiques qui peuvent mener à certaines libertés, si on veut.
Ouais, c'est ça. Ben, chez Dagerman, il y avait quand même une façon de ramener les deux, là, où en bout de ligne, comme il y a un déterminisme, il y a comme. Tu sais, il y a des structures dans la société qui existent, qui sont comme excessivement contraignantes, mais en même temps, il y a de la responsabilité de l'individu de prendre conscience de ces structures-là.
Et d'agir.
C'est comme le cri de la liberté est une nécessité. Là, c'est comme la seule attitude à avoir en bout de ligne, selon Dagerman, la seule vraie attitude. Mais pour ça, il faut être conscient qu'il y a un divorce irréconciliable là, entre l'individu et la société. Là. De la façon que la thématique de l'État est abordée dans Le Serpent, dans le fond, un des soldats, à proprement parler, lui est clairement anarcho-syndicaliste. Dans le fond, il a été en Espagne, il était du côté républicain et tout ça. On va parler aussi de la contrainte que les soldats vivent, dans le fond, et puis du fait qu'ils se font envoyer, qu'ils savent que d'un jour à l'autre, il pourrait peut-être se faire envoyer au front, dans le fond, puis se faire tuer dans une guerre à laquelle peut-être qu'il croit, peut-être qu'il croit pas. C'est ça, là, il y a quand même... La thématique de l'État est plus présente dans ce livre-là que dans n'importe quel des autres thèmes, des autres œuvres littéraires de Dagerman. On peut peut-être la voir d'une certaine façon dans L'île des condamnés aussi, là. L'idée de L'île des condamnés, c'est qu'il y a des naufragés qui se ramassent sur une île déserte et puis ils vont comme se bâtir une espèce de micro-société où, en bout de ligne, finalement, ils réalisent que... La vie est absurde, puis il y a rien qui mène à rien, dans le fond. De la façon qu'un des personnages va le présenter, c'est que la vie est juste une course jusqu'à la mort, là, essentiellement. C'est ça, L'île des condamnés va garder aussi un peu, dans le fond, les espèces de thèmes symboliques que le serpent avait, là, plutôt que l'enfant brûlé. L'enfant brûlé qui est considéré comme le grand roman de Dagerman, qui, lui, va être beaucoup plus réaliste, là, beaucoup plus basé aussi sur le style de Lars Ahlin, qui est un des contemporains, dans le fond, en littérature de Dagerman, là, un autre des jeunes écrivains de cette époque-là. Là. Mais c'est ça, dans le fond. Ce qui est intéressant par rapport au serpent, c'est vraiment les tripes d'angoisse, dans le fond, que les gens vont faire, où là, ils commencent à se faire des scénarios dans leur tête, et puis, à un moment donné, on réalise qu'on a lu 10 pages, 15 pages de suite, et puis que c'est juste dans le fond, c'est juste comme... Qu'est-ce que les personnages... C'est ça, c'est juste une appréhension, là. C'est juste comme une version... de la réalité telle que perçue par un personnage dans sa propre imagination, et en bout de ligne, il a pas bougé d'un pas pour de vrai, là. Et puis, ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans le fond, c'est comment il y a une espèce de sentiment... est-ce que c'est dur à dire, est-ce que c'est comme les structures, est-ce que c'est le destin, est-ce que c'est une espèce de mélange entre les deux, dans le fond, là, il y a une espèce de sentiment que, tranquillement, les personnages se font amener, se font pousser vraiment vers... une absence de choix en bout de ligne. Là. On dirait qu'ils se font tranquillement attraper dans une situation où là, il va vraiment leur rester un de deux choix, c'est-à-dire comme abdiquer ou se révolter. Puis pour les soldats, dans le fond, ça va passer par le fait qu'ils vont être punis à un moment donné, puis ils ont comme la conscience que c'est leur dernière fin de semaine de permission avant qu'on leur serre la vis. Là. Fait que pendant cette fin de semaine-là, comme ils vont tout essayer de tout faire, genre certains vont essayer de se sauver d'une certaine façon, ils vont essayer de trouver des échappatoires, que ce soit des échappatoires permanentes, semi-permanentes ou juste temporaires, puis ils vont tous se retrouver comme à être tranquillement écrasés, à être tranquillement pris dans une situation, un des personnages dans le fond qui se ramasse à être en train d'essayer de se sauver d'un immeuble par la fenêtre, puis il est comme pris sur une corniche à un moment donné. Puis il y a comme deux choix, dans le fond. Là. Soit il reste là, puis il se fait prendre, ou soit il saute, puis il se tue. Là.
Ouais, c'est comme ces deux choix. C'est typiquement existentialiste. Si ouais, on veut l'individu se faire serrer par par des conditions extérieures, puis ultimement, il doit poser le geste. Puis le geste ultime, qui est pour les existentialistes, la preuve ultime aussi de la liberté de l'homme, soit le suicide.
Ouais, c'est ça. Ben, d'ailleurs, le suicide est quand même un thème, somme toute, récurrent aussi chez Dagerman, mais en même temps, il n'y a jamais un personnage qui va consciemment vraiment aller vers le suicide. Là. Il y a comme des suicides manqués, mais sinon, souvent, les personnages vont finir par faire un autre choix. Là. Parlant de suicide manqué, ça m'amène, par exemple, au chef-d'œuvre de Dagerman, qui est L'enfant brûlé. Ça, c'est, dans le fond, le roman que Dagerman a fait paraître à l'âge de 25 ans et puis qu'il l'a vraiment comme consacré en tant qu'auteur et en tant que génie littéraire. Là. Donc, c'est ça. Au lieu d'aller dans les dérives symbolistes puis expressionnistes que Dagerman avait choisi à travers comme le serpent puis L'île des condamnés, dans L'enfant brûlé, c'est vraiment comme... beaucoup plus réaliste. C'est aussi peut-être le plus autobiographique des choix littéraires de Dagerman. on parle dans le fond d'un jeune homme qui se fait... qui vit avec son père. Sa mère vient de mourir. Dagerman n'a jamais vraiment connu sa mère. Il l'a vu juste une fois, je pense. Puis c'est lui qui avait initié la rencontre. Là. Fait que c'est ça, comme le roman s'articule autour de l'absence de la mère, dans le fond, puis de la relation père-fils. Puis vraiment, là, l'idée de l'authenticité puis de l'inauthenticité va paraître beaucoup. Là. On parle quand même dans le fond, le fait de mentir aux autres puis de se mentir à soi-même. Là, comme le personnage, dans le fond, le personnage principal de Bengt va constamment mentir aux autres sur qu'est-ce qu'il veut dans la vie, qu'est-ce qu'il veut faire. Quand son père se fait une nouvelle blonde, donc Bengt va constamment ramener l'image de sa mère comme étant dans le fond, comme si son père manquait de respect à sa mère, quand en réalité, Bengt est amoureux de la femme. Là. C'est tout simplement ça. Là.
Okay.
Donc, c'est ça. Ensuite, le thème de l'inauthentique et l'authentique, c'est vraiment peut-être le thème le plus important du roman, avec aussi l'angoisse quand même, là, constamment, qui revient dans ce roman-là. Vraiment, encore là, l'angoisse existentielle du être pris dans une situation, puis le seul choix qu'on a, dans le fond, c'est de crier. C'est quand même intéressant comme roman, parce que c'est vraiment une lente danse avec la mort. Là. C'est vraiment comme un espèce de cheminement comme tranquille vers un espèce de suicide qui devient inévitable à un moment donné là, pour le personnage de Bengt. Puis ça va vraiment comme ramener plus près de la vie de Dagerman, qui quand même avant sa tentative de suicide ultime avait fait plusieurs tentatives de suicide. Là. Même la dernière tentative de suicide, dans le fond, c'est un suicide en deux temps. Dagerman va s'enfermer dans son garage, puis il va partir le moteur de sa voiture. Puis finalement, on va le retrouver à côté de la voiture, dans le fond, quand il avait essayé de sortir, puis il avait essayé de couper le moteur. Là. Fait que c'est ça, il y a vraiment quand même une similarité, là, sans vouloir nécessairement... Comme il existe toujours une différence entre l'auteur puis le narrateur puis l'œuvre, c'est ça. Mais il y a quand même des traits là, qui reviennent. Et puis Dagerman va être particulièrement critique là, face au personnage justement de Bengt, qui, par son attitude inauthentique, par le fait qu'il se mente non seulement à lui-même, mais qu'il mente constamment aux autres. Puis on peut se poser la question, en fond, qu'est-ce qui est le pire comme mensonge entre le fait de mentir constamment aux autres ou le fait de se mentir à soi-même. Là. Bengt lui-même va parler dans sa dernière confession du fait que la personne qui a le plus dupé en partie, c'est peut-être lui-même. Là.
Mm-hmm.
Donc, c'est un peu ça, dans le fond. Puis, il y a vraiment comme des thèmes récurrents, là, comme on disait, tels que l'angoisse qui naît d'une contradiction entre l'impuissance à se réaliser dans la société, dans un monde qui est constamment hostile, et la conscience chez l'être humain de la liberté qui va... Ça mène au sentiment de l'absurde, dans le fond, à l'idée que la vie vient de rien et mène à rien, dans le fond, que c'est juste une course vers la mort, et après la mort, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer, il n'y a rien, là, c'est la fin. Face au sentiment d'absurde, dans le fond, il y a deux réactions que l'être humain peut avoir, une réaction positive, c'est-à-dire comme la conscience de l'angoisse, la conscience de l'absurde, le fait d'affirmer sa liberté, et un pendant négatif qui est le refus, dans le fond, qui est le fait de tenter d'échapper à sa propre angoisse. Là.
On va en profiter pour aller faire une pause, puis on va continuer tout de suite après.
Thank you.
Donc, on est de retour avec Franck pour une chronique littéraire sur la vie et l'œuvre de Stig Dagerman, un auteur suédois qui était à la fois militant anarchiste puis auteur existentialiste. Puis, on en était davantage peut-être abordé les thèmes de son œuvre.
Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, pour faire la transition, là, comme on disait juste avant la pause musicale, donc des thèmes principaux dans l'œuvre de Dagerman, c'est certain que bon, la vie, la mort, la sexualité, dans le fond, d'une certaine façon, l'impossibilité du bonheur aussi, ou la quasi-impossibilité du bonheur, sont des thèmes super récurrents, mais... On va noter trois thèmes principaux, dans le fond, qui sont vraiment des thèmes existentialistes, là, c'est-à-dire l'angoisse, l'absurde et puis l'espèce de contradiction entre l'authentique et l'inauthentique.
Est-ce qu'on pourrait rapprocher l'absurde de Franz Kafka avec celui de Dagerman?
C'est clair aussi qu'il y a quand même genre il y a un lien là, définitif entre Kafka et Dagerman. Kafka va quand même avoir beaucoup ça reste un des auteurs les plus influents là, du 20e siècle. Mais c'est ça, dans le fond, il y a vraiment la notion d'absurde de Kafka, mais aussi celle de Camus quand même, là, qui est très présente. Pour ce qui est de l'angoisse, on va parler aussi de l'angoisse, dans le fond, qui se rapproche un peu de l'idée là, de Kierkegaard. Là. Déjà, pour commencer, l'angoisse, c'est pas juste une angoisse socio-économique. Là. C'est vraiment important pour Dagerman, qui pourtant tire ses idées existentialistes en quelque part de son implication dans le syndicalisme révolutionnaire puis dans l'anarcho-syndicalisme. Pour Dagerman, c'est ça, il y a vraiment pas nécessaire... C'est illogique, dans le fond, de penser... juste pour sortir une citation ici... Dans le fond, c'est le poète refuse catégoriquement d'admettre que tous ceux qui ont un revenu de moins de 4000 couronnes ressentent exactement la même sorte d'angoisse. Là. Fait que l'angoisse, c'est pas quelque chose de... Il y a quelque chose de socio-économique, dans le fond. C'est sûr qu'il y a des traits qui sont importants là, dans les structures, tout ça. Mais en même temps, l'angoisse, c'est vraiment quelque chose d'existentiel. Là. Ça naît de l'individu. Là. Fait que pour Dagerman, c'est pas une espèce de... C'est pas... Il y a rien de marxiste dans l'angoisse. Ouais, ouais. Là. C'est ça. Donc, à travers son œuvre, ce qu'on peut voir, dans le fond, c'est une angoisse qui naît du divorce fondamental qu'il y a entre l'individu et le monde. Là. C'est déjà comme quelque chose qu'on a traité un peu. Donc, l'individu va vraiment crier sa liberté face à une société qui l'empêche de se réaliser. Là. C'est un conflit qui va avoir trois thèmes fondamentaux, dans le fond. Le premier, c'est l'hostilité du monde face au libre épanouissement de l'individu. Le deuxième, c'est une angoisse qui relève de la liberté, de la possibilité de décider de son avenir. Ça, c'est super important quand même. C'est le fait qu'il y ait des déterminismes va provoquer de l'angoisse, mais le fait aussi de savoir que moi, en tant qu'individu, joue un rôle dans ma propre vie, ça aussi, ça mène à l'angoisse parce que quand même, ça veut dire qu'en quelque part, tu es responsable de toi-même. Là. Autant qu'il y a des forces qui peuvent être écrasantes autour de toi, autant... t'es obligé de prendre part, dans le fond, à ta propre vie. Là. Il y a une partie de ce qui arrive sur lequel tu peux jouer. Là. Puis pas juste comme, dans le fond, être capable de manger du pain puis avoir le choix de voler ou pas manger. Là. C'est vraiment comme l'idée de faut que tu cries ta liberté. Là. Faut que tu oses être toi-même. Faut que tu oses te réaliser. Là. C'est vraiment à ce point-là. Là. Et puis, le dernier thème, dans le fond... de l'angoisse, ça serait une angoisse qui est liée à la base au sentiment, c'est-à-dire comme là on va parler de sentiments comme la culpabilité, la solitude, le désespoir, là, qui sont aussi des thèmes qui sont vraiment récurrents chez les personnages de Dagerman. Là,
c'est... Peut-être j'imagine les relations entre différents individus, où ce que l'on cherche vraiment comme à projeter notre individu au meilleur qui peut être tout en s'assurant que tout se fasse dans l'ordre.
Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, admettons, si on prend certains personnages qui sont pris sur l'île des condamnés, c'est ça, ils ont tous comme une espèce d'angoisse fondamentale individuelle qui est liée en partie à des sentiments comme il y a un personnage qui est de nature excessivement gêné. Puis ça va comme contribuer à nourrir son angoisse existentielle. Il y a d'autres personnages qui se sentent coupables de qu'est-ce qu'ils ont fait par le passé. D'autres personnages qui sont fondamentalement des lâches aussi. Là. Donc, c'est ça, là, ces sentiments-là vont naître justement du combat entre l'individu et la société. Là. Fait que ce sentiment d'angoisse-là, dans le fond, va donner place à l'absurde. L'absurde va être surtout visible à partir dans le fond, va être uniquement visible à partir de l'île des condamnés. Et puis, ça va être le roman dans lequel ça va être le plus apparent et ça va être le plus subtil aussi. Je te laisse te moucher, Guillaume, profite-en. Donc, on va aussi le voir dans un court texte de Dagerman qui s'appelle « Notre besoin de consolation ». Dans le fond, c'est la version courte du titre. Là. Mais on appelle souvent ce texte-là tout simplement « Notre besoin de consolation ». Ça sert un peu comme de bref de testament là, à l'œuvre de Stieg Dagerman. Donc, pour Dagerman, c'est ça, l'absurde va naître aussi du conflit entre le désir d'un monde humain et le caractère inhumain du monde. Là. Peu importe à quel point je peux détester comme le mot « inhumain », parce que dans ma tête, il y a comme une espèce de divorce fondamental entre l'idée que l'être humain puisse faire quelque chose qui est inhumain, là, dans le fond. Comme tout ce qui est fait par l'humain est humain, en quelque part. Là. Peu importe que ce soit les pires atrocités, mais bon. Fait que bref, pour Dagerman, c'est ça. Il y a comme le divorce entre le désir d'un monde humain et le caractère inhumain du monde. Le monde est inhumain pour deux raisons. D'abord parce qu'il est irrationnel et ensuite parce qu'il est immoral. L'irrationnel va être super bien représenté dans l'île des condamnés par une espèce de rocher blanc que les naufragés vont découvrir, puis ils pensent trouver une solution là-dedans. Là. C'est vraiment comme un gros symbole de la vie, dans le fond. Là. Ils trouvent un gros rocher blanc, puis ils vont balayer le rocher blanc, ils vont enlever le sable qui recouvre le rocher blanc pour essayer de découvrir comme le mystère. Quel grand secret le rocher blanc cache. Mais finalement, c'est ça, fait que là, on voit comme une espèce de désir de clarté, de compréhension, mais finalement, ça se révèle vraiment être un cul-de-sac, là. En bout de ligne, ils ont balayé un rocher blanc qui reste n'être qu'un rocher blanc, et juste pour particulièrement bien montrer que, dans le fond, la vie mène juste à la mort, le rocher blanc va mener à une espèce de tombeau qu'un des personnages, Lucas Egmont, avait créé pour son tonneau. Là. Fait que le rocher, en bout de ligne, qui est la vie, fait juste mener directement à la mort. Là. C'est quand même très symbolique. Là. On va voir aussi le thème de l'absurde dans L'enfant brûlé, dans le fond, où ce que Bengt, le personnage principal, va dans le fond insister sur l'incapacité de l'être humain à comprendre le monde. Pas que le monde est incompréhensible, autant que l'être humain, l'individu, peut pas le comprendre. C'est ça. Donc là, il y a vraiment l'idée aussi que, dans le fond, la vie est une course vers une mort certaine. On va rajouter à l'irrationalité l'idée de l'immoralité. Donc, le fait que, dans le fond, il n'y a pas comme... C'est inutile, en bout de ligne, d'essayer de faire des bonnes actions dans un monde qui est maléfique. On va quand même aussi parler... Dagerman revient souvent avec l'idée d'une justice qui est plutôt... qui tient plus du hasard que de n'importe quoi d'autre, dans le fond, où on va établir des circonstances qui sont un peu des fausses circonstances. Le personnage du juge est constamment un personnage antipathique là, chez Dagerman. L'absurde va se manifester vraiment avec le sentiment de la solitude, avec une impression de détachement du monde et de soi-même. Là. En bout de ligne, comme qui frôle pas nécessairement l'apathie, mais vraiment comme le désintérêt. Là. On peut se demander à ce stade-là si c'est pas comme une espèce de symptôme de dépression, là, où comme souvent les dépressifs vont mentionner le fait qu'ils sont capables de, en bout de ligne, qu'ils se détachent un peu de leur propre corps, puis qu'ils sont plutôt capables de se voir agir, mais qu'ils sont plus témoins de leur vie qu'acteurs de leur vie. Là. On peut faire le lien ici, dans le fond, avec la dramaturge britannique Sarah Kane, là, qui, justement, dans 4h48 Psychose, faisait état de ce détail-là, puis ça a été super bien représenté sur scène, dans le fond, dans 4h48 Psychose, en mettant des miroirs sur le dessus de la scène, ce qui faisait que les gens dans les premières rangées étaient capables de voir non seulement le personnage qui est sur scène, mais la réflexion du personnage. Fait que ça donne comme une espèce d'idée du personnage qui se regarde soi-même en train de parler devant un public. Là. C'était une super belle mise en scène, ceci dit. Donc, la conscience de l'absurde, parce que c'est vraiment important, va mener à trois types de réactions. La première réaction, c'est le suicide logique, dans le fond, le suicide existentiel. L'idée, c'est pas un suicide dépressif, là, c'est pas comme... c'est vraiment le « OK, il n'y a aucune porte de sortie, that's it, pow ». Ça finit là, puis il n'y a rien qui mène à rien, c'est tout. Ce n'est pas, c'est pas un suicide de tristesse, c'est pas un suicide de vengeance. Là. C'est vraiment un suicide rationnel. La deuxième réaction de l'absurde, dans le fond, c'est le saut dans l'idéalisme où on va vraiment élever un trait, admettons comme le jeûne ou le mutisme. Un des personnages va vraiment se jeter dans le mutisme comme étant la solution. C'est ça. Donc, élever un trait comme ça au niveau de l'idéal. Et la troisième réaction possible à la conscience de l'absurde, c'est la révolte lucide, mais évidemment qui est condamnée à n'être que symbolique parce que les forces en présence sont tellement plus fortes que l'individu. Ce qui nous amène finalement au dernier thème qu'on va aborder rapidement, dans le fond, qui est la confrontation entre l'authentique puis l'inauthentique, qui est visible à travers toute l'œuvre de Dagerman. Là, bon, j'en ai parlé un petit peu tantôt pour l'enfant brûlé, où le personnage de Bengt non seulement se ment à lui-même, mais il ment constamment aux autres, puis il va remarquer que la personne à qui il a le plus menti, c'est lui-même. Il va même mentir, en fait, dans son dernier message. Bengt, à travers le roman, envoie des lettres pour lui-même, mais aussi à son père, à sa femme, tout ça. Et puis, même dans sa dernière lettre, qui demande qu'elle soit déchirée, dans le fond, fait qu'on lit la lettre après qu'elle ait été déchirée, d'une certaine façon, c'est intéressant pour ça. Bengt, dans le fond, ment à travers cette lettre-là, puis va vraiment finir par être honnête juste vers la fin de la lettre, et même dans qu'est-ce qui suit la lettre, dans le fond, dans sa rencontre avec l'épouse de son père. Là. Aussi, on va le voir, l'idée d'authentique, inauthentique dans Le Serpent. Dans le fond, quand les soldats qui sont pris au piège dans la caserne avec le serpent qui se promène partout, qui peut ramper librement partout, puis personne ne sait il est où, ce petit serpent venimeux-là qui fout la trouille à tout le monde, plutôt que d'affronter leur angoisse, dans le fond, d'affronter le serpent, ou même juste de reconnaître, OK, le serpent, il est là, il n'y a rien qu'on peut y faire, nan, on a peur, puis c'est normal. Les soldats, plutôt, vont commencer à se raconter des histoires, dans le fond, puis c'est un peu là-dedans, en comme de fuir leur angoisse là, qui adopte une attitude inauthentique là, qui est aussi perçue d'une certaine façon comme une attitude de lâcheté par Dagerman, ce que Dagerman va fortement critiquer parce que selon Dagerman, il n'y a aucune façon de réellement aspirer à quelque chose de plus pour l'être humain que d'affronter vraiment dans un face-à-face son angoisse, de la reconnaître puis de reconnaître l'absurdité de la vie là. Dans le fond, peut-être juste comme pour conclure, Dagerman va vraiment comme utiliser l'image du compas, dans le fond. C'est vraiment... Et cette phrase-là est représentative de peut-être toute la génération des années 40, là, la génération littéraire en Suède. C'est-à-dire la conscience d'avoir les yeux ouverts et... Qui observe vraiment sans peur une position terrifiante doit être le compas là. Ça doit être comme la boussole qui nous guide dans la bonne direction là.
Ah ben Franck, c'était extrêmement intéressant, je te remercie beaucoup.
Ben merci, ça
Franck,
m'a fait plaisir.
Franck qui est désormais notre spécialiste en littérature suédoise existentialiste. Donc on va en profiter pour terminer ça en allant écouter une chanson ma foi dépressive de circonstances. Et puis, on va continuer l'émission tout de suite après.
Your eyes do. breathe and dry you.